tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour les auditeurs de Radio MDM. Alors aujourd'hui, je suis partie à Odignon, vers le Moulin Neuf, qui a été acquis voici 2 ans par Nicolas et Céline, qui se sont installés là avec leurs 4 enfants et qui ont conçu tout un projet autour du moulin qui était à restaurer, autour de l'eau du moulin, autour du très bel environnement aussi du moulin. Et ils vont nous en parler aujourd'hui. Nous allons leur consacrer 2 émissions. Alors je vais passer la parole à Nicolas afin que vous vous présentiez.
Bonjour, merci. Je m'appelle donc Nicolas Ossard. Je suis sociologue avec une formation d'historien. En sociologie, je m'intéresse depuis quelques années maintenant, plus particulièrement à des questions liées à l'environnement, à la place de l'homme dans son environnement et de l'environnement à la place de l'homme. J'interviens sur des questions donc liées à notre place en tant qu'être humain dans notre écosystème et aux arbitrages quand il y a besoin d'en faire entre les différents groupes qui parfois ont des intérêts divergents, consommateurs, agriculteurs, politiques par exemple. Et je travaille également pour des institutions, généralement des institutions publiques qui ont à cœur de réfléchir aux questions environnementales dans la conception de notre évolution.
Vous êtes arrivé dans les Landes il y a quelques années. Donc avant, vous viviez dans quelle région ?
Avant d'arriver dans les Landes, en Chalosse plus particulièrement, nous étions, mon épouse et nos enfants, nous étions à Nice pendant quelques années. Puis avant cela, nous étions en Normandie. Et naturellement, après avoir goûté au climat ensoleillé de Nice, nous ne voulions pas remonter au nord de la Loire et nous avons décidé de nous localiser dans cette belle Chalosse.
Alors Céline, vous allez parler de votre parcours à nos auditeurs, afin qu'ils sachent exactement de quelle manière vous vous situez dans ce projet.
Bonjour, merci Jeanne-Marie. Je suis Céline, Ossard me conduit. Alors j'ai un parcours qui commence par un cursus en architecture intérieure et qui s'est très vite orienté vers le feng shui. Donc, quand j'ai mis le doigt dans l'engrenage du Tao par la porte du Feng Shui qui va gérer l'espace, les pièces, l'organisation des pièces, je suis allée un petit peu plus loin et suivi un cursus en médecine taoïste et plus particulièrement sur le massage du ventre. En fait, puisque dans le Tao, on considère que les pathologies sont des émotions qui s'engramment dans les viscères. Donc voilà, pendant plusieurs années, j'ai pratiqué la médecine taoïste avec le massage du ventre. Et comme je suis originaire de Pays d'Auge, j'ai plus précisément de la région de Deauville, j'installais en fait des prestations spa dans les hôtels entre Cabourg, Deauville et Honfleur, avec le référencement, la mise en place de protocoles de massage et puis la formation continue des personnes qui allaient les dispenser. Cela m'a amené à m'intéresser aussi à tout un tas de thérapies alternatives, plein de médecines naturelles plutôt ancestrales, en faisant un petit écart parce que j'ai... je suis maman de 4 enfants, donc j'ai fait un petit détour en formation en langue des signes. C'était quelque chose qui m'intéressait parce que à travers le massage, on passe par le corps et je trouvais que cette langue des signes dans la gestuelle était particulièrement intéressante. Donc j'ai suivi un cursus pour me former à la langue des signes et puis pendant 4 ans avec une amie quand nous vivions à Nice, j'ai fait de la formation auprès de professionnels de la petite enfance en signe et aussi de personnel hospitalier pour intervenir auprès de personnes atteintes de troubles du spectre autistique.
Vous avez donc un parcours tout à fait riche, diversifié, très complémentaire finalement de celui de Nicolas.
Oui, disons que tous les deux, on nous classifie dans santé humaine non médicale, ou classé ailleurs. Effectivement, que ce soit lui sur son regard qui va s'attacher plus à comment vivent les êtres humains entre eux, en société, et moi sur le développement personnel de l'être humain. On s'apporte l'un l'autre, effectivement, autant de questions que de réponses.
Je pense qu'il est temps de faire une présentation de la première chanson ou du premier morceau de musique. Vous allez nous présenter ?
Oui, alors j'ai choisi, le choix était difficile, j'ai choisi de vous faire passer un morceau de Chopin. C'est la polonaise en si bémol. Alors pourquoi Chopin ? Pourquoi les polonaises ? Sans doute pour une double raison. La première tient du fait que Chopin a une histoire personnelle qui me touche beaucoup, parce que immigré polonais qui débarque à Paris, qui rencontre le succès de son vivant, ce qui était assez rare, mais aussi les insuccès, des conquêtes amoureuses avec évidemment George Sand, l'histoire que l'on connaît de leur amour, et une fin tragique, prématurée, trop jeune sans doute, comme tous les génies. Ça voilà pour la grande histoire de Chopin. Et pour la petite histoire plus personnelle, c'est parce que Chopin était la porte d'entrée émotionnelle de ma grand-mère maternelle, qui était une méchante bonne femme, qui n'avait pas l'amour dans les veines, et encore moins pour ses enfants et ses petits-enfants. Et en fait, elle était concertiste, et quand elle se mettait à son piano, elle changeait du tout au tout, et elle dégageait une émotion qui lui était sinon imperceptible en temps normal. Donc Chopin m'accompagne ma vie et me rappelle toujours que la musique propose un autre langage que ce qu'on peut exprimer.
Pour ce second volet de l'émission « Les Landes, c'est ma nature », je rappelle que nous nous trouvons dans le Moulin Neuf d'Audignon, donc qui était un ensemble de bâtiments que vous avez acheté, je pense, en état relativement difficile. Il a fallu restaurer, commencer à restaurer, parce que c'est pas fini. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce travail ?
Oui, alors déjà, je ne sais pas si nous avons choisi le moulin ou si c'est le moulin qui nous a choisi. Et une autre peut-être remarque aussi, ce qui n'est pas qu'une façon de parler, mais qui est vraiment quelque chose que je ressens à chaque fois que je fais des travaux dans le moulin ou dans les bâtiments annexes, c'est que nous ne sommes que des passeurs de moulins, en fait. Nous n'en sommes pas les propriétaires, nous en sommes les occupants actuels, nous avons cette chance-là. Et l'histoire de ce patrimoine nous écrase, j'allais dire, mais c'est le terme est péjoratif, mais en tout cas nous oblige et à écouter les bâtiments, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce que fonctionne un moulin dans son ensemble, avec tous ses canaux et tous ses ouvrages qui lui sont dédiés. Et effectivement, le travail est quotidien et assez colossal. On a récupéré certains bâtiments avec des arbres qui poussaient au milieu, donc il a fallu d'abord commencer par refaire toutes les couvertures, toutes les charpentes pour les mettre hors d'eau et au fur et à mesure on avance bâtiment par bâtiment dans le respect et la compréhension que nous pouvons en avoir, en tout cas de l'usage des bâtiments. C'est vrai qu'on a à cœur dans cette restauration de le restaurer d'une façon écologique, comme on dit aujourd'hui, mais surtout d'écouter les bâtiments, de voir comment est-ce qu'ils étaient, d'essayer de comprendre l'esprit dans lesquels et les raisons pour lesquelles ils ont été fabriqués, et de tout en les modernisant, de garder leur caractère ancien et fonctionnel.
Ce qui veut dire que derrière l'ensemble de votre projet, vous avez un deuxième projet qui est celui de vivre dans ce milieu, comme vous l'avez dit, en autosuffisance, voilà. Donc, ce qui vous amène, évidemment, à faire des choix, un certain nombre de choix, j'imagine. Vous avez parlé, par exemple, de la réhabilitation écologique, d'une part. Est-ce que vous allez arriver, notamment, à réhabiliter ce moulin en tenant compte de ces impératifs-là, tout en préservant, quand même, je dirais, un petit peu la qualité patrimoniale des lieux?
Bien sûr, c'est l'objectif, et c'est l'objectif de toute rénovation des bâtiments qu'on entreprend ici, à savoir qu'on a, et sans doute aussi mon côté historien y est pour quelque chose, on a toujours à cœur d'avoir un pied dans le passé et aussi un pied dans l'avenir. Typiquement, nous avons une salle des machines dans le moulin, donc avec des meules, alors qu'ils ne sont pas encore toujours en état, mais qui vont l'être d'ici quelques temps. Ça fait partie du planning des travaux, de réhabiliter les meules et de pouvoir moudre à nouveau du grain dans le moulin, puisque c'est sa fonction initiale, mais aussi de réserver une partie de ces meules, donc de garder deux meules pour moudre du grain, mais de prendre la place aussi de deux autres meules, puisqu'on a quatre meules dans le moulin, de prendre la place aussi des deux autres meules pour pouvoir créer de l'hydroélectricité, en fait. Donc un pied dans le passé, un pied dans l'avenir. Et sur l'hydroélectricité, c'est une histoire assez amusante qu'on répète souvent avec l'association des Moulins des Landes lorsqu'on anime les week-ends au site de Marquèze, au moulin de Marquèze, à l'écomusée. C'est de dire que les moulins ont finalement été condamnés dans les années 60-70 à cause de l'arrivée de l'électricité, et qu'aujourd'hui, c'est la nécessité de l'hydroélectricité qui fait revivre aussi les moulins. Donc c'est un beau pied de nez aussi à l'histoire et à se laisser pour compte des moulins que l'on s'efforce aussi de refaire vivre aujourd'hui, quoi.
Alors, au 19e siècle, il y avait environ 700 moulins dans le département des Landes. Et aujourd'hui, combien en reste-t-il, enfin, d'actifs ?
D'actifs, très peu. D'actifs, alors ça dépend ce qu'on appelle actif. Est-ce qu'on appelle actif des moulins qui ont encore leur meule et qui pourraient moudre du grain, ou des moulins qui s'occupent effectivement à moudre du grain? Cette deuxième catégorie est plus connue que la première. Il y en a moins d'une dizaine dans tout le département des Landes aujourd'hui qui sont en état de fonctionnement. Aujourd'hui, justement, l'association est en train d'aider l'ALPAD à moudre du grain, comme on le fait traditionnellement avec eux, au moulin de Bégard, qui est en fait plus une minoterie qu'un moulin. C'est encore un autre détail, c'est un moulin dans un moulin, mais ce moulin-là, justement, est une minoterie qui est active et compte parmi la dizaine à peu près que l'on connaît au sein de l'Association des Moulins des Landes de moulins actifs en exercice.
Vous nous présentez un dernier morceau de musique ?
Oui, avec grand plaisir. La Superbe de Benjamin Biolay, C'est un morceau où la musique est vraiment envoûtante et en plus, à titre personnel, comme j'ai fait très longtemps de la danse, dans le clip qui illustre ce morceau, il y a l'intervention de Marie-Agnès Gillot.
De la mer, quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque de Russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage. D'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire, on flaire, la flamme singulière. On gagne, on perd, on perd la guerre, la superbe. Merci à la merci de l'amour crasse, d'un simple démenti, d'une mauvaise vie, d'une mauvaise passe. Le silence est aussi pesant qu'un porte-avions qui passe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un sacrifice, d'une mort à crédit, d'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flâne. On flaire la flamme singulière. On gagne, on perd la gagne. Merci à la merci d'un imbutal, du plafond décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un lampadaire, d'une douleur endormie, d'un chasse-esprit, d'un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire. On flaire la flamme familière. On gagne, on perd la gagne, la superbe.
Nous reprenons le cours de notre émission Les Landes et ma nature avec le troisième volet de cette émission consacré au Moulin Neuf d'Audignon où vivent Céline et Nicolas et leurs quatre enfants. Moulin Neuf sur lequel ils ont bon, non seulement un projet de réhabilitation patrimoniale mais aussi vraiment tout un projet d'insertion dans l'environnement dont on va parler longuement. Mais on va commencer déjà par décrire un petit peu ce moulin, ses bâtiments, ce qu'il y a, ce que Céline et Nicolas ont trouvé quand ils sont venus ici et qu'ils se sont installés.
Alors, Alors, le Moulin Neuf à Odignon est implanté sur une superficie de 7 hectares. Heureusement, beaucoup de forêt, ce qui permet d'avoir à moins travailler un peu dehors, puisque la forêt n'a pas besoin de nous pour vivre. Et en fait, c'est implanté sur 7 hectares, non pas parce qu'on a la folie des grandeurs, mais parce qu'un moulin a des ouvrages dont il dépend, qui doivent être implantés et répertoriés sur sa propriété, à savoir des canaux, puisqu'on a à peu près 1,5 km de canaux qui courent sur le domaine, cumulés, entre le canal d'amenée, le canal de fuite, le canal de débordement et autres canaux de contournement. Donc on a la totalité de ces canaux-là. Ces canaux sont alimentés par la rivière le Gabas, et sur le Gabas s'établit un seuil, une digue, qui permet de ralentir l'écoulement de l'eau dans le Gabas pour que l'eau puisse s'engouffrer dans les canaux qui ont été construits donc par la main de l'homme, qui servent de bras de dérivation pour alimenter les meules du moulin historique. Le bâti en tant que tel est donc composé d'un moulin qui est aujourd'hui notre habitation principale. Ce moulin entrave est donc à cheval sur le canal du Gabas, avec sa chambre d'eau et ses meules qui sont alimentées par le dessous. Le long de ce canal se trouve une grange qui est très imposante et très bien conçue dès son origine, puisque toute la charpente est en chêne à l'intérieur, ce qui montre aussi et ce qui rappelle l'importance de ce bâtiment-là par rapport au moulin, puisqu'il faut bien se remettre en tête que le moulin, qui date a priori du XVIIe siècle, était un véritable garde-manger pour tout le domaine seigneurial dont le moulin dépendait, et qu'il y avait du grain à stocker, qu'il soit à l'état brut avant d'être moulu, ou qu'il soit déjà moulu pour pouvoir stocker les farines et pouvoir les distribuer. Cette grange est complétée par un four à pain qui est très imposant, que nous réhabilitons aussi aujourd'hui. Alors non plus en four à pain, parce qu'il se trouve que quand on a visité la première fois le Moulin Neuf, le four à pain s'y trouvait, mais quand on a acheté le Moulin Neuf, ça s'est su parce qu'il était inoccupé depuis une 15-20aine d'années, le moulin, il était laissé à l'état de l'abandon. Le four à pain a été démonté et volé pierre par pierre, brique par brique, et la porte comprise. Alors, on a adopté un peu une philosophie bouddhiste en se disant perdu pour soi, trouvé pour quelqu'un d'autre, tant pis. Et en même temps, on s'est rendu compte finalement que ça nous arrangeait quelque part que le four à pain ait disparu, dans la mesure où si on l'avait eu, bien sûr qu'on l'aurait gardé, qu'on l'aurait réhabilité, qu'on l'aurait remis en fonction, mais il est tellement énorme qu'il aurait fallu faire des fêtes de village tous les 6 mois pour pouvoir justifier de le remettre en marche. Et du coup, le fait qu'il ait été démonté nous permet de réhabiliter le four à pain en un autre bâtiment. Ce qui est intéressant dans la conception et dans les travaux qu'on fait, c'est qu'on s'efforce toujours de garder les éléments anciens pour les remettre dans le bâtiment en tant que tel. Je pense à ça en parlant du four à pain, parce que il a fallu démonter la valoir, toute la cheminée du four à pain qui était très conséquente, finir de la démonter en tout cas, et on a récupéré toutes les briques qui se trouvaient dans la valoir pour dalle le sol du four à pain tel qu'on est en train de le réhabiliter aujourd'hui. Donc voilà, même le solivage de la cheminée aussi qui va nous servir de banc pour le mettre dans le jardin d'hiver qui existait aussi au four à pain devant. Enfin voilà, donc voilà pour les bâtiments principaux. Il y a également un hangar qui se trouve au-dessus, une étable, parce que c'était une ferme aussi, ce n'était pas qu'un moulin, ça a été une ferme pendant des siècles et des siècles. Donc une étable assez conséquente, puis un hangar pour stocker les machines agricoles au gré des années.
Il existait, on l'a vu tout à l'heure, donc 700 moulins au 19e, il y en a très peu maintenant. Et c'est peut-être aussi lié au fait que la législation, notamment sur les moulins, est assez contraignante. Et vous en avez eu un exemple récemment avec un article de loi sur les digues.
Oui, tout à fait. En fait, comment être bref et ne pas endormir vos auditeurs. En fait, dans les années 90, une loi européenne a demandé à ses États membres, dont la France évidemment, de s'occuper de la nature des rivières et de l'eau douce en général. La France a opté pour une politique de continuité écologique, ce qui est tout à fait intéressant sur le papier. Et cette politique de continuité écologique consistait à s'occuper non pas forcément de la qualité de l'eau, comme essayait de l'orienter la directive européenne, mais a décidé de se focaliser sur la migration des poissons migrateurs, puisque tous les poissons ne sont pas migrateurs, et le bon écoulement des sédiments dans les rivières. Fort bien, ce qui voulait dire que à partir de cette politique de continuité écologique, les moulins devenaient des obstacles à la continuité écologique. Le problème, c'est que les moulins sont là pour la plupart depuis 15e, 16e, 17e, XVIIe siècle, et que les poissons n'ont jamais été empêchés de remonter les barrages. Enfin, on a toujours vu des poissons de part et d'autre des barrages, sur les petits moulins en tout cas. L'administration imposait aux propriétaires de moulins de s'équiper de passes à poissons extrêmement coûteuses. Par exemple, pour le moulin neuf, une estimation a été faite de la construction de passes à poissons. Il y en avait pour 200 000 euros à charge du propriétaire. Donc une somme colossale, forcément qu'on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et de là, il faut s'entendre avec l'administration pour trouver les solutions pour le faire. Alors une solution existe tout simplement, c'est l'entretien des canaux et l'entretien notamment des canaux de contournement. C'est une chose qui a fait ses preuves et qui a fait d'ailleurs jurisprudence dans plusieurs départements en France. Dans d'autres départements, ça peut être plus compliqué, mais c'est une solution qui existe et qui est à moindre coût pour tout le monde. Maintenant, l'administration, dans certains départements encore, a aussi montré les dents en disant que s'il n'était pas possible d'équiper un barrage de moulins, la solution c'était de le détruire et que cette destruction ne coûtait rien au propriétaire. Elle était entièrement prise en charge par l'agence de l'eau qui était en charge du bassin. L'agence de l'eau qui est un organisme public et qui donc coûte aux contribuables à peu près le même prix que l'équipement d'un barrage, à savoir 200 000 euros concernant un moulin comme celui-ci. On a récemment, avec la Fédération française de sauvegarde des moulins, on a récemment réussi à faire voter un amendement, c'était ça il y a 3 semaines, dans la loi climat et résilience, un amendement stipulant que la destruction des barrages n'était plus une option et que, à charge des agences de l'eau, de subventionner non pas la destruction des barrages, mais l'équipement pour le bien-être environnemental et des propriétaires de moulins, mais aussi d'une rivière en général. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un barrage détruit, alors qu'il fait partie de l'écosystème depuis parfois jusqu'à 10 siècles, toute la nature s'est familiarisée et s'est accaparée ce moulin-là, puisque la nature n'est pas divine et n'est pas originelle. La nature est une construction aussi de l'homme, et l'homme a sa place dans la nature tant qu'il la respecte, en tout cas comme il se doit. Et le problème est que ces destructions de barrages, le cas échéant, entraînent des effondrements de berges, des mises en danger de la rivière, des maisons qui peuvent se retrouver inondées derrière parce que le barrage n'est plus là pour ralentir quand il y a des crues, comme on en a eu l'hiver dernier dans les Landes. Le barrage n'est plus là pour ralentir la course effrénée de l'eau. Donc ça crée des problèmes en cascade. Récemment encore, j'étais chez une amie dans son moulin après Châtelet-Bains qui a vu son barrage complètement détruit, non pas par l'administration cette fois-ci, mais par la rivière justement, par le Loutz, puisque le propriétaire au-dessus de chez elle, à Gamarde-les-Bains, a autorisé l'administration l'année dernière à faire détruire son barrage, et la destruction de ce barrage-là a accéléré la rivière, et pendant la crue, c'est son barrage entier qui a été emporté par la crue et qui menace toutes les berges de la rivière tout le long du Loutz. Donc c'est un vrai problème environnemental que l'administration ne prend pas assez en considération à mon sens, et en plus de ça, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'un barrage détruit, c'est un moulin que l'on condamne. Pourquoi je dis ça ? Parce que les moulins ont été conçus structurellement avec la force de l'eau qui était prise en compte dans ses fondations même, qu'un barrage tient debout parce qu'il a la poussée de l'eau qui exerce contre ses fondations, et que du coup, si on détruit un barrage, l'eau ne rentrera plus dans les canaux, le moulin sera à sec et le moulin risque de se casser la figure au bout de quelques années. On a déjà eu ce triste exemple à différents endroits en France, et les moulins à ce titre-là ne sont pas du tout préservés par cette politique qui part d'un bon sentiment mais qui in fine devient complètement absurde par sa logique destructrice. Donc voilà, il faut savoir si on veut ou pas sauver le troisième patrimoine de France que représentent les moulins derrière les châteaux et les églises, ou si l'on accepte, au nom de poissons qui seraient d'un coup au XXIe siècle devenus complètement stupides pour ne plus être capables de remonter les barrages alors qu'ils le font depuis 10 siècles dans certains cas. Voilà, c'est une question de cohabitation de l'homme et de la nature qui est aussi au centre de mes préoccupations professionnelles d'ailleurs.
Cette émission consacrée au projet du Moulin Neuf d'Audignon touche à sa fin, mais nous n'allons pas nous séparer ainsi, puisque en fait il y a une seconde émission qui sera présentée dans 15 jours et qui va conclure l'ensemble de nos émissions Les Landes, c'est ma nature avant les vacances. À bientôt donc les auditeurs de Radio MDM, et nous vous espérons fidèles pour le prochain et dernier volet de cette émission. Adi Schatz.
C'était Les Landes, c'est ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.
Les Landes, c'est ma nature. Le lundi, de 15h à 15h30. Rediffusion en trois parties. Le mardi, le mercredi et le jeudi, à 13h sur MDM.